Tendance à me plaire.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Tendance à me plaire, épisode 3 de la 12e saison. Vous nous écoutez sur Radio G, sur Fréquence Zik ou bien en podcast. Et ce soir, on vous propose une émission un peu spéciale autour de la pop culture à l'occasion du festival Angers Geek Fest qui se tiendra le week-end du 17 et 18 octobre au Parc des Expositions d'Angers. Et à cette occasion, nous accueillerons tout à l'heure, non pas un, non pas deux, mais trois invités. Donc, Romain Huel, un des responsables de production du festival, mais aussi Clémence Guillormic et Mathilde Daconcet-Cao, bah dis donc, c'est pas facile ces noms, hein, qui vont vous proposer pendant le festival des jeux de rôle. Elles vous expliqueront ce que c'est exactement tout à l'heure. Et pour animer avec moi l'émission ce soir, j'ai réuni les chroniqueurs les plus geeks d'entre eux, enfin geeks à leur manière. Hein.
Ah oui.
Par exemple, nous avons une rétro geek Sonia qui vous proposera tout à l'heure son traditionnel Soso Show. Salut Soso.
Salut tout le monde.
Nous sommes également ravis de retrouver à l'antenne notre geek des salles obscures, Olivier, qui fait sa grande rentrée aujourd'hui. Salut Olivier.
Salut tout le monde.
Donc tu nous parleras des films et séries geek justement. Alors en préparant l'émission, j'ai appris que Pierre Benoît, alias Monsieur Kiosque, ne se reconnaissait pas du tout en ce terme. Hein. Un geek, ça lui parle pas. Alors justement, il nous expliquera pourquoi il n'aime pas ça tout à l'heure.
C'est ça.
Voilà. Manuela aussi. donc Manuela aussi.
C'est son nom entier en fait. C'est pour ça,
d'accord.
Il fait un
c'est
jeu de mots.
Manuela. C'est une toute petite geek que l'on aime avoir près de soi. Hein. Elle nous parlera ce soir du phénomène de mort imminente. Alors c'est pas une...
Ah, ça donne envie, hein.
Alors, c'est pas une chronique hors sujet, hein, car ce thème fera l'objet d'une conférence à part entière justement pendant le festival. Salut Manu.
Salut à tous.
Et puis je termine mon tour de plateau par le plus geek d'entre nous. J'aurais trop aimé être une petite souris pour voir ta réaction quand je t'ai annoncé les invités et le thème du jour, Bruno.
Bah, tu l'auras dans l'édito.
Ah bah justement, on va commencer l'émission avec toi, Bruno. Voici l'édito du jour.
Ah, c'est à moi. Bon, alors, vous savez qu'on n'est pas du genre à faire du copinage ici, hein, de parler des émissions des autres, de nos copains pour faire de la promo. Hein. C'est pas du tout le genre, hein, on mange pas de ce pain-là. C'est donc de façon totalement désintéressée et objective que j'ai écouté l'émission de Vincent, notre invité de notre précédente émission, qui recevait en invité...
Oh là, mais qui ça ?
Raphaël !
Oh, bah ça alors, quelle surprise !
Alors, je m'attendais à une émission chiante, eh bien, je n'ai pas été déçu.
Oh.
j'ai pas été déçu que... Parce que l'émission était bien. Vous comprenez comme vous le voulez.
D'accord.
Parmi tous les passages, il y avait un des passages qui était vraiment très intéressant. On y apprend des trucs. Raphaël a dépeint la réalité avec retenue et finesse, de façon très juste. Et rien que pour ça, je vous propose d'écouter cet extrait de l'interview de Raphaël dans l'émission « On n'a qu'à inventer » sur Radio G.
Bruno nous a rejoint. Alors Bruno, c'est presque un professionnel de la radio. Il a une émission à part entière qu'il anime depuis très longtemps. Il est très très doué. Il a vraiment le ton et la technique. Et il est vraiment fait pour ça. Et son soutien, enfin moi je... Encore aujourd'hui, il est dans l'émission et moi je trouve qu'il a un soutien indispensable pour le fonctionnement de l'émission. C'est lui qui gère la technique, ce qui me stimule dans l'animation. Et il a plein de bonnes idées aussi.
C'est ça le Larsen.
Oh là là, t'as pas honte. Mon Dieu.
Je crois que Bruno a pris son pied.
Ouais, c'est bon, je me la passe en boucle en fait depuis 15 jours, c'est très bien. Alors si vous voulez écouter ce grand moment de radio où Raphaël se met à nu devant Vincent, c'est dans l'émission On n'a qu'à inventer, disponible en podcast sur radio-g.fr. Alors prochaine émission, hein, le dimanche 18 octobre à 14h. Voilà, la pub, c'est fait. Mais bon, va falloir bosser un peu. Car en tant que pilier de l'émission, en tant qu'être exceptionnel et indispensable, sans qui vous ne seriez rien apparemment, il faut qu'en toute modestie, je fasse mon édito de la semaine. Bon, là par contre, on est dans la mouise. Ce soir, on a des jeunes en invité et en plus des geeks. Alors, par définition, hein, des personnes intéressées par des nouveautés techniques, en particulier l'informatique et les jeux vidéo, voire Internet. Alors déjà, dans ma phrase, on est en totale dichotomie avec les chroniqueurs de l'émission. Alors non, Manu, dichotomie n'a rien à voir avec sodomie, bien que nous soyons bien dedans en, au niveau crédibilité. Le top de la geek attitude, donc, par exemple, de Sonia, c'est Snake sur le Nokia 3310.
Oh, quand même.
Tu confirmes. Raphaël tape son texte sur Blocknote, le seul programme présent sur les PC depuis Windows 3.1.
Tout à fait.
Monsieur Kiosque ne vit pas dans le même siècle que nous, même s'il passe par YouTube pour nous parler de son époque, le 18e. Olivier regarde ses films sur DVD, mais ça c'est juste parce que son magnétoscope est en panne. Quant à moi, ma série télé préférée, c'est Columbo. Alors autant vous dire qu'on va avoir une émission surnaturelle. Mais bon, il faut quand même être fier de l'héritage que nous laissons aux geeks d'aujourd'hui, car on s'est payé tous les pots cassés, et pas qu'un peu. On a dépensé un pognon fou sur Minitel, payé à la minute, alors qu'Internet est maintenant souvent gratuit. Et quand Internet est arrivé, ben on a encore taxé, hein, puisque c'était payé à la minute. Pour s'envoyer des messages, hein, c'est nous qui nous sommes tapés les tatous, ces petits appareils pour dire qu'on pensait à l'autre à l'aide de 6 chiffres. Bien avant Twitter, on avait appris la concision, hein. Même si c'est là, c'est la 6 concision. Pas de peau.
Oula.
Et que dire des SMS? 20 centimes le SMS. Vous imaginez 5 SMS, 1 euro. Chaque année, en nouvel an, des heures passées à envoyer frénétiquement des messages hors de prix à minuit pour qu'ils arrivent 5 heures après tellement le réseau était pourri. Aujourd'hui, les SMS sont illimités et au nouvel an, on programme une bonne année sur Facebook, hein, et on va se finir au champignon à la taurine. Et les jeux? Parlons-en des jeux. Hein, ils étaient sur bande magnétique, sur des cassettes. Hein, pour charger ne serait-ce qu'un niveau de notre jeu d'aventure, il fallait 10 minutes quand ça plantait pas. C'est grâce à nous que vous jouez à Zelda sans temps de chargement aujourd'hui. Et même les jeux de rôle ont un ancêtre sur lequel toute une génération s'est battue. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous les enfants de Donjons et Dragons, un jeu qui se jouait sur un simple tableau avec une craie et un dé. J'étais moi-même un grand mage à cette époque. Mais ce qui me rassure, c'est que les geeks d'aujourd'hui, dans 30 ans, pourront écrire la même chronique en parlant aux nouveaux geeks de leur époque. Nous sommes donc tous des geeks, car nous restons de grands enfants émerveillés par ce que l'homme peut créer pour se divertir. Et ça, ça a tendance à me plaire. Bonne émission, les amis geeks.
Merci.
Merci Bruno, bravo. Alors ce soir on parle des geeks et justement si vous aimez les réseaux sociaux, eh bien on vous invite vraiment à rejoindre notre communauté en nous suivant sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram où vous pouvez voir régulièrement les coulisses en photo et vidéo de l'émission. Place maintenant à nos invités du jour.
C'est l'heure de l'invité.
Avec nos invités du jour, nous allons parler de la première édition de Angers Geek Fest, un événement dédié à la pop culture qui se déroulera le week-end du 17 et 18 octobre au Parc des Expositions d'Angers. Durant 2 jours, les visiteurs vont donc se plonger dans divers univers et déambuleront entre autres dans le monde d'Harry Potter, de Star Wars, des cosplayers ou bien même de Game of Thrones. Alors pour bien nous en parler, nous accueillons Romain Huel, responsable de production des événements Geek Fest chez Leno. Alors Romain, votre job a l'air trop bien, mais en quoi consiste votre mission au sein de Leno? Parlez-moi de votre métier, Romain.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Et effectivement, ouais, donc moi, je suis responsable de production pour une société qui s'appelle Leno.
Ouais.
Et on existe depuis 5 ans au format pro, format agence, mais par contre, on a 20 ans d'association derrière nous.
D'accord.
Et notre métier, c'est d'organiser des événements dédiés à la pop culture, avec notamment la marque Geekfest, et là on la développe pour la première fois à Angers le week-end prochain.
D'accord, alors pourquoi justement avoir choisi notre ville Angers pour accueillir ce festival? Comment est née l'idée de ce projet?
Alors c'est aussi Angers qui nous a choisi en
D'accord.
fait, parce qu'à la base c'était un vrai projet de la ville d'avoir un événement dédié à la pop culture. Et c'est eux qui sont venus nous chercher. On s'est rencontrés il y a maintenant presque 2 ans pour monter ce projet-là. Donc c'est vraiment une notion de coproduction avec la ville, avec Destination Angers, les équipes du Paris Exposition de Angers, où nous on les accompagne justement sur la thématique, sur l'acculturation à ce qu'est la pop culture, à ce qu'est la culture geek, pour avoir une programmation la plus cool possible, la plus adaptée au public angevin. Et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Donc c'est vrai qu'initialement c'était prévu en avril dernier.
Bah oui.
On l'a déplacé, on sait tous pourquoi, en octobre. Ce qui fait qu'on a hyper hâte, nous, d'en découdre un petit peu ce week-end.
Bah justement, alors comment vous sentez l'engouement, l'attente du public par rapport à ce festival qui a été reculé effectivement et qui arrive ce week-end?
Alors, on a, nous, côté engouement, on le voit sur les réseaux sociaux, sur la billetterie, etc., ça commence vraiment à chauffer, les gens ont envie de se retrouver, et je pense que ça dépasse même le cadre de la thématique Culture Geek, les gens ont tout simplement envie de se retrouver sur un événement qui est hyper festif dans son ambiance, qui est très très good vibe sur le côté justement ambiance du festival. Mm-hmm. C'est hyper bon enfant, donc je pense qu'il y a ce public qui a envie de se retrouver, aussi un public de curieux qui a envie d'en connaître peut-être un peu plus sur la thématique, ce qui fait que nous ça va nous permettre aussi de voir sur justement le public à Angers, si c'est un public de geeks qui avait vraiment envie d'avoir cet événement depuis longtemps, ou alors sur un public qui a juste envie de découvrir et qu'on va devoir accompagner. Mais dans les deux cas, nous, on a envie d'y être, donc on a hâte.
Alors maintenant qu'on comprend mieux le cadre, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Hein. Vous nous avez envoyé le programme du festival, vous proposez plus de 80 heures de divertissement, vous accueillez plus de 30 invités, 15 entreprises et 13 associations locales. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des coups de cœur un peu plus personnels, quelque chose qui vous stimule et dont vous êtes impatient de vivre sur le festival?
Alors moi, les premiers coups de cœur, ils sont sur les invités. C'est vrai que de manière générale, sur nos événements, on a des invités qui sont récurrents. Là, c'est la première fois qu'ils viendront découvrir et les Angevins et aussi la ville, pour la plupart. Il y en a certains avec qui moi je m'entends particulièrement et qui sont vraiment des coups de cœur là-dessus. Notamment Pierre-Alain de Garrigue, qui est un doubleur qui a presque 40 ans de carrière maintenant. Il a fait plus de 50 000 enregistrements de voix. Donc, il a beaucoup travaillé pour du cinéma, pour de la publicité et aussi beaucoup pour du jeu vidéo. Ouais. Il a une expérience incroyable, des anecdotes de folie. donc ça fait partie des invités qu'on a envie de faire découvrir. On a aussi Thibaut Villanova, aka Gastronogeek, qui lui est cuisinier.
Ouais.
Donc à la base, et en fait, il utilise justement des recettes qu'on peut voir dans des films, dans des dessins animés, dans la littérature, dans les bouquins, mm-hmm. pour les réadapter, créer ces recettes qui sont purement fictives pour le coup, et du coup, il fait des livres de recettes intimement liés à la pop culture.
Donc effectivement, il y a énormément d'invités. Je vois également Eva Tespiquet, c'est une jeune fille de 13 ans avec son papa qui parle ouais. de biologie, de physique.
C'est ça, parce que la culture geek, c'est avant tout un public de curieux, un public de passionnés. Mmh. Et ça dépasse, j'entendais l'idée tout à l'heure, ça dépasse aussi beaucoup le milieu de l'informatique et du jeu vidéo. Mmh. Et justement, nous, on vient faire beaucoup de médiation liée à la science. Et en fait, l'idée, c'est toujours de passer par le prisme de la pop culture pour apporter un message, quel qu'il soit, pour faire apprendre quelque chose et rendre un peu cool des thématiques en tout genre. Et elle va t'expliquer. Du coup, c'est son deux youtubeurs, donc un père et sa fille, qui sont à Angers et qui viennent justement décortiquer comme ça des sujets et les expliquer sur YouTube.
D'accord. Je vois également une course de drone. Alors ça, je m'attends à tout. Ça va être excellent.
Ouais, c'est ça. On aura ce côté très très tech. Justement, on essaie de mettre en place tout ce qui est mis en avant de nouveaux divertissements. Donc, ça va passer par du drone, ça va passer par la réalité virtuelle, ça va passer par de l'e-sport, les compétitions jeux vidéo. Il y aura aussi un laser tag qui sera sur place. Donc, on va être sur tout un tas d'activités. Un peu nouvelle, un peu récente, pour justement faire en sorte que les gens découvrent d'autres choses aussi.
Donc effectivement, chacun peut y trouver son compte. Hein. Il y a également des cosplayers, Soso. Tu vois ce que c'est les cosplayers?
Oui, c'est ça que je voulais. C'est des personnes qui sont costumées selon leur, enfin habillées comme leur héros. C'est ça.
Bah là, ce soir, elle est en Lara Croft. Hein. C'est impressionnant. Moi, je dis, c'est très impressionnant.
Voilà, et c'est parfois de la haute couture hein, parmi les costumes de cosplayers. Hein.
Ouais, complètement. En fait, le cosplay, c'est vraiment une pratique cosplay pour costume player. Donc, on va jouer le personnage qu'on a envie d'incarner. Mm-hmm. Et en fait, ça dépasse pour la plupart vraiment le simple fait de porter un costume, parce que quand on regarde les cosplayers un peu aguerris ou ceux qui participent au concours, au défilé, tout est fait main. Oui. Quand vous voyez des robes, par exemple, de princesse Disney ou ce que vous voulez, c'est de la couture. Quand vous voyez une côte de maille, la personne a fait une côte de maille. Rien n'est acheté.
C'est fascinant.
Et du coup, et ça donne des maquillages, ça donne des trucs de dingue. Ouais. Ce qui fait que le spectacle, il est aussi dans le public. Et on a hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais. Ils vont peut-être tous être masqués, du coup.
De toute façon. Alors, vous accueillez également des associations locales comme les Arts Ludiques, hein, qui vont proposer des parties de jeux de rôle. Et justement, nous avons au téléphone Clémence et Mathilde qui sont membres de l'association. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment en êtes-vous venu à participer au festival?
Et bien, tout d'abord, c'est l'Angers qui nous a envoyé un mail nous proposant de venir. Mm-hmm. On n'était pas intéressés tout de suite, on a commencé à bien se lancer. Et ça nous met à aujourd'hui, on participe le week-end prochain.
Donc là, vous êtes une association située dans la région, en fait, hein?
Oui, en effet. Oui.
Voilà.
Alors, on est basé sur Trélazé et on rayonne un peu sur toute la ville d'Angers,
ouais,
aussi, et les environs.
Alors,
on est une association que...
Ouais, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un jeu de rôle exactement? Comment vous le définissez?
Donc, un jeu de rôle, de façon plus concept, c'est une histoire qui est coécrite entre un maître du jeu qui présente son histoire et les joueurs qui réagissent à ce qu'il propose. Mmh. De façon plus concrète, c'est une table de 4 ou 5 personnes avec un compteur et 5 joueurs qui réagissent.
C'est un jeu de plateau, en fait, hein. On est vraiment autour d'une table. Ouais.
Oui, mais il n'y a pas forcément de support plus que 2-3 livres et des petites feuilles.
Mmh. Et puis,
par rapport à la chronique de tout à l'heure, en fait, on n'est pas vraiment évolué du tableau. Hein.
Mmh. Et du coup, vous incarnez en fait un personnage, en fait, un héros.
C'est bien ça.
Et voilà, vous participez à son avancée, vous le faites évoluer. Alors, il y a plusieurs jeux de rôle là, dont un inspiré de Stranger Things, qui se passe dans les Paris sombres des années 1900. Vous avez un coup de cœur, vous, parmi toute la liste? Il y en a un que vous aimez particulièrement?
C'est un peu compliqué, mais effectivement, il y en a quelques-uns. Donc, particulièrement Tales from the Loop, qui est un des jeux de rôle qui effectivement reprend un peu la base de Stranger Things, mm-hmm, avec des enfants qui évoluent dans les années 80 avec une technologie un peu avancée. Voilà, c'est toujours marrant de retrouver en fait ce côté. Je rejoue un enfant de 15 ans alors que j'en ai 25, 30, 40. Dans les années 80, années que j'ai connues ou pas.
Ouais.
Donc ouais, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup, Tales from the Loop, qui sera maîtrisé du coup, qui sera proposé à l'Angers Geek Fest ce, ouais, week-end.
Et c'est accessible. Oula.
Il y a un monstre. Bref, c'est le monstre du monde à l'envers qui arrive.
Et vous, alors qu'est-ce qui plaît aux joueurs et pourquoi vous aimez tant ça finalement, le jeu de rôle?
Bah, il y a plusieurs raisons en fait. Je pense qu'on aime tous le jeu de rôle de manière un peu individuelle. Alors il y a le côté un peu théâtral, il y a un côté un peu d'histoire, d'imagination, la création de personnages, voilà, tout ça c'est vraiment personnel, mais il y a un peu de tout ça dans le jeu de rôle. Si je peux donner mon point de vue personnel, mmh, c'est un peu voir l'évolution de son personnage, explorer l'entièreté de ses compétences, ses émotions, voir comment il va réagir à une situation, chose que moi je ferais pas dans ma vraie vie.
Ouais.
Et puis c'est de voir évoluer un monde différent du mien aussi, et d'aller me confronter aux problématiques que va me proposer le maître du jeu, qui lui aussi a une manière de penser, de fonctionner, qui est aussi... voilà, qui nous fait rentrer dans son univers.
Bon, en tout cas, on sent votre passion, en tout cas, pour cet univers. Votre association a plus de 25 ans, hein, et vous proposez plein de choses autour de cette thématique. Donc, on rappelle le nom de votre association, les Arts Ludiques. Et Romain, une petite question. Vous faites des jeux de rôle, vous également?
Alors, moi, à titre perso, je viens de m'y mettre il y a quelques mois à peine. C'est un truc que j'ai jamais osé faire parce que pas trop d'intérêt, pas trop de potes qui en font ni quoi que ce soit. Mais il y a un vrai retour même à la mode de des jeux de rôle. Et c'est vrai que quand on commence à mettre un doigt dans l'engrenage, c'est hyper intéressant et on se rend compte qu'en fait, pour tout âge, c'est vraiment une belle aventure, quoi. Donc, et ça dépend vraiment du maître du jeu, mais très cool.
Vous confirmez ce que dit Romain, les filles, Mathilde et Clémence, vous sentez une tendance et un intérêt croissant?
Bah, je trouve, oui. Déjà, on a un petit peu plus de facilité à rendre le jeu de rôle populaire et moins cette image des messieurs qui jouent dans leur cave ou autre. Ça devient plus populaire grâce à Internet.
Ouais, carrément. D'accord.
Il y a notamment les actual play, critical role, aventure du joueur du grenier, etc. Mm-hmm. Et on a tout s'ouvre. Il y a des jeux de rôle plus simples. Il y a vraiment une recrudescence de nouveaux joueurs, jeunes, vieux, bon, féminins, masculins.
Ok. Eh bien, en tout cas, c'était vraiment à découvrir pendant ce week-end du 17 et 18 octobre, Angers Geek Fest. Voilà, dernière précision, Romain, pour se rendre au festival, comment ça se passe ?
En drone.
Faut y aller en drone ? Faut venir en
pompon ? Pas tant. Nous, ce qu'on préconise là, c'est de réserver ses places en amont sur le site internet.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que on a des contraintes quand même du nombre de visiteurs.
Mm-hmm.
On est à 5000 personnes maximum à l'instant T. Ce qui fait que pour assurer vraiment le fait de pouvoir y accéder, c'est mieux de réserver sa place.
Il reste des places.
Il reste des places, tout ouais. à fait. Et c'est vrai que une fois ce quota là dépassé, ça peut être un peu plus délicat d'avoir une place sur place. Donc c'est plus intéressant de précommander sa place. Donc c'est ce qu'on préconise. Et après sur le reste, nous on voudrait aussi rassurer sur tout ce qui est contraintes sanitaires.
Oui.
Il y a un dispositif qui va être quand même très important sur place pour D'accord. permettre aux gens de profiter du festival.
Mm-hmm.
Et surtout pour permettre tout simplement aux gens de respecter les gestes barrières, donc port du masque obligatoire, mm-hmm. distanciation physique, du gel hydroalcoolique à gogo sur tous les stands. Mm-hmm. Et ne serait-ce que pour les cosplayers qui sont des gens qui se prennent beaucoup en photo, il y aura des espaces qui seront faits pour, avec des plexiglas entre les personnes, pour faire en sorte que l'expérience soit quand même hyper aboutie malgré les contraintes. Pour prouver en termes d'image hein, que on peut quand même profiter d'événements.
Ouais.
C'est pas tout à fait pareil, mais on peut quand même se retrouver et profiter des événements à partir du moment où tout le monde est dans le respect de l'autre.
Ok. Eh bien, en tout cas, merci Romain de ces explications. Ça donne vraiment envie hein, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur le programme détaillé. Hein, allez sur le site angersgeekfest.com. Merci également à Mathilde et Clémence hein, pour votre témoignage. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon festival à vous trois et aussi aux spectateurs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, alors restez bien avec nous puisque dans la suite de l'émission, on retrouvera la chronique bien-être et santé de Manu hein, qui nous parlera de la mort imminente, hein, cherchez l'erreur. On retrouvera Bruno pour sa chronique C'était mieux après, le sauce au chaud, mais aussi la chronique ciné d'Olivier. Tout ce joli programme à suivre après un mot de Monsieur Kiosque.
Alors, ce matin, je reçois un appel de Raphaël qui me demande si je connais le Beatface.
N'importe quoi. C'est quoi ça ?
Comment dire ? Déjà que je me fais mater le cul quand je suis en danseuse sur le vélo.
Non, pas direct.
Non merci, ça va aller.
Bon, là, Bruno Bis.
J'ai rien dit moi.
C'est ça. Là il me reprend, il me dit non, le Angers Geek Fest, le festival des geeks, pas des beats. Tu veux faire une...
Oh,
il me demande si je veux faire une chronique à ce propos. Bah là non plus, certainement pas. Parce que les 30 ou quarantenaires prépubères qui continuent de s'astiquer le joystick devant des créatures fantaisistes,
mais j'ai très énervé.
C'est pas le genre de Monsieur Kiosque pour une fois. Non, parce que comme l'a dit Bruno tout à l'heure, Monsieur Kiosque, c'est un vieux con à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Encore plus vieux et plus con que...
Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est dommage, on n'a pas entendu.
Si, ça nous a bien éclaté. La sonnette.
Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Kiosque, pour se divertir ? Eh ben, il écrase pas son canapé avec son cul en jouant à la console. Il va faire de longues balades en pleine nature. Ah, les oiseaux qui chantent. L'air frais sur ma redingote. La campagne qui me caresse la glotte. Et qui vous lèche la botte. Comme moi, avec Raphaël, dont le sourire vous donne des ailes. Un charme à nul autre pareil, qui parle au cœur et le réveille. Amen. Vous êtes bien sur RCF Anjou. Donc après sa petite balade, Monsieur Kiosque pose ses fesses sur un canapé, mais pas pour jouer à Donjons et Dragons version électronique, non, pour lire. Oui, vous savez ce que c'est la lecture ? Ça vous dit quelque chose ? Ça sert à s'instruire et à se cultiver. D'ailleurs, j'ai amené de ma petite bibliothèque un ouvrage pour vous parler de la vie du marquis de l'Étendehère, un marin né à Angers le 6 juin 1682.
Donc il a un livre là, comme okay.
Voilà. Est-ce qu'on l'entend ou pas les...
Oui, on imagine bien son livre. Alors.
Ça va être long. Henri. François des Herbiers, marquis de l'Étendehère.
Oui.
Il embarqua dès l'âge de 10 ans comme mousse sur le Téméraire, commandé par son oncle paternel, Armand Charles. Pierre Benoît, c'est Armand Charles, c'est un peu.
Ouais, c'est sa double.
C'est pour ça, c'est une petite dédicace.
C'est très bien, oui.
Puis à 13 ans, sur le Bizarre, monté par un autre de ses parents, Monsieur de La Haye, mon beau cul. Non, on aurait pu placer, mais
non.
Nommé le 12 mai 1697. Bon, ok, c'est chiant en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je sais pas te le dire.
C'est pas si bon.
On dirait une famille de clic-clat-topette, c'est terrible. Hein.
Ouais, c'est vraiment ennuyant,
quoi.
Comme quoi, c'est peut-être sympa finalement, un Final Fantasy par exemple, ou un Grand Theft Automobile 5. Je sais pas, je m'y connais pas trop. Quoique, je pense qu'on peut quand même s'amuser en lisant des livres, notamment celui-là qui s'appelle.
50 exercices de rire.
De rire.
C'est pas mal, ça.
Est-ce que ça vous intéresse d'en faire un ?
Ben oui.
Allez, oui, on est jusqu'à 23h, c'est bon.
Surprenez toute une tablée. C'est pas mal, ça.
Oui, vas-y.
Alors, les grandes tablées en famille, entre amis ou collègues.
On n'a plus le droit.
Vous vous réjouissez ou vous vous apprêtez à subir l'événement ? Si vous recevez, apportez votre touche personnelle à la décoration, la musique, les boissons, la nourriture.
Ouais.
Votre humour et votre implication feront la différence. Que faire encore pour mettre tout le monde à l'aise ? Péter ? Non. Oh.
C'est vraiment marqué ça ?
Tester. Non, c'est moi qui ai rajouté.
Ah, je me disais aussi, ouais.
Tester les 6 propositions ci-dessous pour égayer le repas. Ouais. Alors, premièrement, choisissez une musique joyeuse pour accueillir les convives. Ouais. Get Lucky de Daft Punk ou Les Sardines de Patrick Sébastien.
Oh la vache, non.
On va mettre Happy plutôt, Bruno, ouais. Si ça te dérange pas.
Ah oui, c'est mieux.
Alors, deuxièmement, saluez chaque convive en avançant un petit pas vers lui, les mains jointes, puis penchez-vous. Ah, en disant Hing Hong.
D'accord,
c'est
qu'il fait.
C'est un peu chelou, hein, tout
ouais,
ça.
Je comprends rien.
Avant de les prendre dans vos bras en riant. Oui, ça c'est pareil avec la Covid, c'est pas possible du coup. Donc on passe. Ouais. Numéro 3, il propose qu'entre la poire et le fromage, on se lève tous et on trinque avec 2 verres imaginaires. Tendez les bras bien droit devant vous, un verre imaginaire dans chacun, versez le liquide festif.
C'est un bouquin pour les mariages, ton truc là.
En faisant oh, et puis versez le verre droit dans le verre gauche en faisant ah. D'accord, en plus, on recommence 3 fois, c'est vachement drôle, hein.
Oh la vache.
Bon, numéro 4, on va essayer quand même, voir si ça marche pour rire ou pas. Mmh. Au moment du champagne, pour ceux qui ont le budget, donc c'est pas notre cas, au lieu de dire santé, proposez que chacun lance un petit rire en levant son verre. On peut essayer ça avec un verre imaginaire.
Ouais.
À 3, on rigole au lieu de dire santé. 1, 2, 3.
Qu'est-ce qu'on a fumé ce soir ?
Ouais, cette personne. S'il y en a un qui rigole, c'est rigolo. C'est Raphaël qui rigole, mais ça. Alors, numéro 5, à la fin du repas, vivement à la fin du repas, hein,
et de la chronique.
De la chronique aussi. Sous prétexte de vérifier l'état d'ébriété des convives, proposez que chacun se tape doucement sur la tête.
Oula.
Ma droite, c'est un truc. Je préférerais lire le Kama Sutra, ouais, serait moins violent, je pense.
C'est ça, ouais.
Et tourne la main gauche sur son estomac en disant ah, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. Quelqu'un veut essayer ou pas ?
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?
Ouais. Sophie ?
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?
Eh ben, c'est pas mal, l'ébriété est plutôt bonne ici.
Ouais.
Moi j'en ai un autre, sinon il faut répéter l'abeille cool.
Ouais,
l'abeille cool.
Oh, forcément.
Et oui, ça fait la belle couille. C'est bon. C'est je suis raccord avec le Angers bite fesse.
Oh non. C'est la fin de ta chronique.
C'est tout pour Monsieur Kiosque ce soir.
Ah ouais, non mais j'ai honte là d'un coup là.
Merci.
Et surtout que Karine nous envoie un petit message. Elle dit attention, Pierre Benoît se transforme en Bruno. Non,
c'est
non.
Pas
oh non, je suis pas à ce point-là quand même.
Il y a des inspirations, je pense.
Merci Pierre Benoît, alias Monsieur Kiosque. Alors place maintenant au Soso Show.
Le Soso Show.
Tu chantes quand tu chantes.
Que la paix soit sur le.
Tout, vous saurez.
Eh bien, bonsoir à tous. Alors, ben, je suis à nouveau heureuse de vous retrouver ce soir en direct pour le Soso Show. Alors, le principe du jeu, c'est de... Vous allez devoir retrouver, grâce à des indices musicaux, des actualités, des informations qui ont retenu, du coup, mon attention ces dernières semaines. Alors, ouais. Si vous êtes prêts derrière votre poste, c'est parti.
Le Soso Show.
Merci bien pour la pièce. En ce moment, c'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je la toujours avoir un toit,
une adresse.
Oh.
Tu grattes des dés.
Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi?
Mais pour le suspense!
100 000 francs gagnés, tête de cochon!
Bon, mais fallait le dire tout de suite, il est où ce dé? Dé!
Il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune?
Le Soso Show.
Alors, avec
moi
vous
j'ai.
Une petite
bah oui,
idée.
Moi j'ai.
Ouais.
Ah, j'ai c'est Manu qui a gagné 4 euros en grattant des dés.
Ah, c'est vrai.
C'est pas possible, c'est ça. Vrai.
Non, c'est pas ça. Mais,
non, c'est pas ça.
Ça aurait pu, j'aurais
je
pu.
N'ai pas de...
Mais pourtant, Manu, tu es dans ma chronique. Ouais. Je viendrai vers toi tout à l'heure.
Ah.
Alors,
là, ouais. Franchement, aide-nous, hein, parce que là, on est
c'est
un peu perdus.
Ah, ouais.
si. Moi,
j'ai un jeu de chance.
Ouais, c'est ça.
Gagnant du loto.
Oui.
Alors, pas de loto, mais d'un jeu à gratter.
Oui, en fait, une personne a donné ça à un SDF, en fait. Voilà, c'est ça.
C'est ça, Bruno, tu
l'as. Et il a gagné.
Effectivement, alors non, c'est quand même si. Le truc. Oh, voilà. Alors, c'est pas un SDF, c'était, ils étaient quatre amis sans domicile fixe.
D'accord.
Et ils ont empoché la modique somme de 50 000 euros.
Oh. Ah oui, quand même.
Alors, pour une fois, dans la vie, voilà, il y en a pour qui la chance sourit. Eh bien, c'était le cas pour ces quatre jeunes sans domicile fixe qui étaient de Brest et qui ont remporté, je vous disais, la somme de 50 000 euros.
Le somme pour le mec qui leur a filé quand même.
Alors, c'est pas le mec, c'est la nana.
Ah, la nana.
Une gentille femme. Donc, ils ont fait le jeu de grattage s'appelle le Banco. Et le 20 septembre dernier, ils ont gratté et ils ont gagné le pactole.
Wow, c'est dingue, ça.
Alors, le petit geste était, semble-t-il, comme ça, anodin. La dame sort du
bar à tabac.
Du bar à tabac, et elle voit ces jeunes qui font la manche et elle leur donne un petit ticket en se disant bah, écoutez, pourquoi pas, la chance sera là. Il y aura peut-être 1, 2, 3, 4 euros. Eh bien, que nenni, 50 000 euros, rien que ça. Et donc, à chacun, ça leur a fait la modique somme de 12 500 euros chacun. Et donc, semble-t-il, ils ont pu exprimer qu'avec cette somme, ils allaient s'offrir un van et du coup partir dans le sud, voilà, vers d'autres aventures. Mais en tout cas, cette femme, je ne sais pas si elle a entendu en tout cas l'actualité, mais je ne sais pas si depuis elle s'est dit mince. Si c'est ça,
ah oui, parce qu'elle n'est peut-être pas au courant.
J'en sais rien. Il n'y a pas eu, ils ne savent pas qui d'accord. a donné ce ticket, mais en tout cas, merci à elle et puis bonne route à eux. Et du coup, effectivement, Manu. Pour ton anniversaire, Bruno t'a offert des petits tickets à gratter. On voulait savoir si toi aussi, tu avais touché le pactole.
Non, j'ai touché 4 euros. Donc j'ai rejoué 4 euros.
Et tu as regagné 4 euros.
Et j'ai regagné 4 euros.
Donc, voilà. Ça peut nous emmener loin, ça, mais la fortune n'est pas loin, Manu.
Et du coup, j'attends.
Ok.
Voilà. On attend la suite, on vous tiendra au courant. Allez, on y va pour le deuxième extrait.
Le Soso Show.
Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Octobre endormi aux fontaines. Au nom de la rose. Au nom de la rose.
So, so show.
Alors, si vous l'avez, mais il y a une double.
Bah oui, c'est ça, parce que pour le dernier, avec Octobre et Rose, ça va se faire, c'est facile, mais il y a autre chose.
Et le jeune qui a fait la traversée à la nage.
C'est ça.
Voilà, je ne saurais pas dire où.
Alors voilà, il y a deux infos en une, mais je vous explique. Donc, il s'appelle Christophe Malo, il est martiniquais et il n'a que 12 ans.
Wow.
Et effectivement, donc, il a réussi un sacré défi, c'est de relier à la nage l'île de Sainte-Lucie à celle de la Martinique. Voilà. Donc, cet exploit, ce défi sportif, je dirais même cet authentique exploit, il l'a réalisé ce week-end. Et effectivement, c'était à l'occasion d'Octobre Rose. Hein, donc, du coup, tout le monde connaît une campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et donc, le jeune Martiniquais donc, s'est lancé ce défi pour rendre un peu visible cette action. Et d'autant plus aussi que sa maman est elle-même atteinte d'un cancer du sein. Donc, voilà. Donc, du coup, il n'en était quand même pas à sa première, à son premier défi. C'est quand même la troisième fois qu'il se lance un défi à la nage et qu'il relève, l'exploit. Donc là, quand même, il a nagé rien que 14 heures, à peu près 14 heures, donc 13h50 et 47 secondes. Il a parcouru à peu près 40 kilomètres. Et donc, ce qu'ils expliquaient, c'est que toutes les 30 minutes, à peu près 20-30 minutes, il s'arrêtait pour manger. Donc, il était accompagné, bien sûr, hein, tout était encadré par sa famille, par des entraîneurs, des coachs. Et donc, régulièrement, voilà, il s'alimentait. Et donc, il a réussi, voilà, en 14 heures à peu près à relier l'île de Sainte-Lucie à celle de la Martinique. Wow. Donc c'était quand même assez impressionnant et à 12 ans on a l'impression que c'est un enfant. C'est, oui. je l'ai vu, il est vraiment tout petit. Enfin, bon.
Ouais, faut saluer l'engagement quand même.
Exactement. Tout donc il a quand même rejoint Jacques Sicot, Yann Richard et Gilles Rondy, donc un cercle assez fermé de ceux qui avaient réussi déjà cette traversée qui avait déjà été réalisée.
Tu veux dire qu'ils sont si peu nombreux à avoir réussi ça?
C'est ça.
Ah oui, quand même.
Et à l'avoir tenté aussi.
À l'avoir tenté et à l'avoir réussi.
Donc, voilà, félicitations.
Ouais. Troisième Soso Show.
Le Soso Show.
Tous ces athlètes dans la foulée pour un marathon fantastique à la seule force du bonheur.
Tous étaient sélectionnés pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Je t'explique, les Jeux Olympiques, des bandes de touloustiques font des concours de gymnastique, là des épreuves de natation. Oui.
So Show.
Vous l'avez là,
ouais,
je sens. Vous êtes dans les starting blocks.
Allez-y. Vas-y.
Alors non, c'est pour le.
Ah,
c'est
tu ne l'as pas.
Pas exactement.
Ah, c'est la qualification aux Jeux paralympiques
de deux sportifs
ouais. Angevin.
Alors non, j'avais pas cette info là, mais on peut en parler si vous voulez.
Non, on en parlera une prochaine fois.
Qui voilà, seront peut-être nos invités bientôt.
Ouais.
Ah super. Donc ça va faire peut-être quand même. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Donc effectivement, on est tous au courant hein, qu'en 2024, les JO se tiendront en France et donc à Paris. Eh bien, il faut savoir que l'Anjou est sur la piste olympique. Ah, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les athlètes vont pouvoir venir s'entraîner, que ce soit à Angers, Trélazé, Saumur ou même au Lyon d'Angers. D'accord. Puisque le 5 octobre dernier, la ville d'Angers, l'information est tombée. Et donc, on a été qualifié pour être ville de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc on avait été labellisé Terre de Jeux 2024 en novembre 2019 et suite à ça, du coup on a été retenu en termes de candidature et donc ça veut dire que bien prochainement, du coup on verra des athlètes venir s'entraîner. Donc apparemment de ce que j'entendais pour l'athlétisme, il y aura le parc des sports du lac de Maine. Pour le tennis, ce sera au niveau du centre de la cour centrale de la Baumette. Pour le tennis de table, ce sera une salle sur Montplaisir. Pour le hockey sur gazon, pareil, ce sera au lac de Maine. Et puis également pour tout ce qui va être natation artistique, etc. Du coup, ce sera à Jambouin. Et pareil pour tout ce qui est basket, escrime. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, du coup, carrément. J'étais surprise. Donc voilà, on pourra avoir peut-être des futurs. Des futurs athlètes,
peut-être champions,
gagnants, champions, ouais. Venir s'entraîner sur Angers et les alentours.
Ok.
Voilà pour l'information et peut-être que du coup on aura le plaisir alors de recevoir des athlètes.
Eh ben peut-être. Qui sait.
Ah.
Merci Soso. Alors nous sommes très heureux d'accueillir maintenant Olivier. Hein, c'est un peu sa rentrée et à l'occasion du festival Angers Geek Fest qui se déroule ce week-end et dont nos invités nous ont parlé tout à l'heure, Olivier nous parle justement des films et séries geeks. C'est parti pour la chronique ciné.
je vais vous parler quand même de trois sondages.
Ah.
Voilà, alors j'ai voulu vous faire plaisir et j'ai posé une question au monde entier. La question c'était: à quel personnage de série, de dessin animé ou de cinéma vous font penser les animateurs de Radio J?
Oh là.
Ah. Oh là 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 là.
Alors en fait je n'ai eu qu'une seule réponse, la mienne. Et donc voilà, c'est un petit peu... voilà, je vais vous essayer de vous faire plaisir.
Okay.
C'est aucune méchanceté que de
oui.
gentil.
Oh, oh bah oui, ça va changer. Oh,
d'abord j'ai pensé à toi Manu, pour moi tu me fais penser... Alors, ne le prends pas mal, hein. Niveau question de genre, j'ai pensé à ça. Maestro.
Donc,
ah, Maestro.
Maestro, il était une fois.
Mais c'était un de mes grand... dessins animés préférés en fait, quand j'étais enfant.
En fait, c'est le sage, l'incarnation d'un grand érudit, curieux de la vie, intelligent.
Oh, instruit. C'est beau.
Un personnage à barbe, quand même, hein, c'est un peu bizarre.
Oui, oui,
bah, t'as bon, vu Manu de près.
Et c'était Roger voilà. Carrel qui prêtait sa voix.
C'est ça.
Je pense que tu me surestimes, ah, voilà. Olivier.
Continue avec Pierre Benoît.
Ah,
Pierre Benoît.
Alors, tu as changé de genre et tu es devenu Dora.
Ah, Dora l'exploratrice.
Dora l'exploratrice.
Ah, c'est vrai, ça lui va bien.
Sur le, voilà, sur le terrain et tout, à découvrir le monde.
Ouais, ça lui va très bien. Ouais, c'est vrai.
Sinon, après, j'ai pensé à toi, Bruno. Alors,
ah, moi,
j'en ai parlé tout à l'heure. Colombo.
Ah, je suis Colombo.
Déjà, niveau vestimentaire, c'est bon.
Ah oui, c'est vrai.
Tu remplis les codes et
tout
puis,
à fait.
Voilà.
Et t'as jamais vu ma femme non plus.
Caro serait. Oui, c'est exactement ce que j'avais dit.
C'est ça.
Exactement. Après, oh, le fils du soleil, Raphaël. J'ai pensé à Esteban.
Ah oui, pas
mal. Un de mes héros préférés.
Merci, ça me
va. Voilà, dès qu'il sort.
C'est que des vieilles séries quand même. Hein.
Oh, y a c'est
bah, c'est clair qu'elles sont toujours d'actualité, bah, ces
oui.
séries.
Ouais. Et puis la meilleure pour la fin, j'ai pensé à Sonia.
Oh là, attention.
Voilà, j'ai pensé à
Karine
Jessica Rabbit.
Ouh.
Ouh. Ah, c'est vrai.
La femme plantureuse qui veut la bien peau de chanter et qui affole.
C'est surtout pour ça qu'on
qui affole les hommes.
Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Oui, mais côte à côte. Oh.
Alors, bon, sérieusement.
Heureusement que Karine n'est pas là, hein, parce qu'elle aurait pu avoir son personnage.
Ben oui. J'ai pas trouvé d'alcoolique.
Oh, c'est pas vrai. Mais les villes, hein, ils en profitent. Karine,
Karine
n'est pas là, ils en profitent.
Elle nous écoute en plus,
elle
on t'embrasse, Karine.
Elle nous écoute en plus, oui, ouais. Bien sûr.
Alors, plus sérieusement, je suis allé voir les personnages préférés des geeks.
Hein, ah,
quels,
ah,
oui. Les geeks, ah, oui, quels personnages ils aiment. Alors, il y a un top 3 femmes et un top 3 hommes.
Homme.
Alors, le top 3 pour les femmes. Alors, j'avoue que j'ai découvert des choses. Alors, la troisième femme la plus cotée par les geeks, eh bien, c'est une dénommée Samus Aran, qui est l'héroïne d'un jeu qui s'appelle Metroid, qui date de 1986.
Mm-hmm.
Voilà, sa plastique est pour quelque chose, je pense.
C'est les femmes qui votent pour.
C'est la femme forte de l'univers Nintendo.
D'accord.
Non, ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui votent pour elle. Ça veut dire que c'est la femme.
Ah, c'est la femme. D'accord.
L'héroïne féminine.
L'héroïne féminine. Ah, pardon. Qui préférait les geeks.
Ok.
Et super. Sonia,
c'est vieux.
En
hein.
Numéro 2, on a bien sûr Lara Croft.
Ah, oui.
L'héroïne de Tomb Raider, incarnée notamment par Angelina Jolie, voilà, qui elle aussi a des formes avantageuses, on va dire. Et puis le top 1, un petit indice.
Alors.
Ouais, ça c'est Game
alors,
of Thrones.
On
Game
parle de personnages féminins. Quel personnage féminin?
Arya de Game of Thrones.
Non.
Non, c'est la fille des dragons, là?
Oui, c'est ça, Daenerys.
Daenerys.
Daenerys Targaryen, la fille du roi déchu, Aerys II.
Ah bah, elle est belle, hein, ça c'est sûr aussi.
La Daenerys,
ah, je connais pas.
Qui met le monde à ses pieds, qui élève des dragons.
Puis on la voit souvent nue dans la série
mère
aussi.
La mère de dragons,
hein.
Quand même. Voilà, c'est les dragons.
Bien sûr.
Ça plaît aux geeks, je pense.
Mm.
Et alors, pour les hommes, eh bien, le top 3...
Alors, attention.
Il y a toujours un peu une de Game of Thrones, vous verrez. Le troisième, c'est l'anti-héros, c'est un super-héros, mais quand même anti-héros, c'est Deadpool.
Ah oui.
D'accord. Il y a eu le film joué par Ryan Reynolds.
Mm-hmm.
Ryan Reynolds, donc c'est un peu le gaffeur, l'humour un peu trash, voilà, un petit peu cul quand même. Il faut savoir que Ryan Reynolds a signé cette semaine le plus gros deal avec Marvel. Il a signé pour 10 films avec un contrat avec des dizaines et des dizaines de millions de dollars.
Enfin, si c'est un film tous les deux ans, au bout d'un moment, il va plus bouger beaucoup, c'est Deadpool. Hein.
Mais le film est sûr de marcher, quoi. C'est vraiment le gros carton.
Ok.
Mais on le voit pas sa tête à lui, on voit que ses muscles.
Elle est en train de chercher sur.
Oui, il est caché. Ça bulge un peu aussi, c'est pas mal.
Faudrait expliquer ce que ça veut dire.
En numéro 2. Je t'appelle si tu as ce que c'est le bulge.
En coulisses, on expliquera ce soir ce que c'est.
En numéro 2, encore un personnage de Game of Thrones. Alors là, j'étais vraiment très surpris par lui. Voilà, c'est un personnage secondaire de la série. Là, c'est Hodor.
Oh non, c'est Hodor, bizarre.
Le géant simple d'esprit qui veille sur Bran Stark, un des fils Stark.
Hodor, voilà, qui parle pas.
Hodor. Ouais. Ouais. Ben oui, il est joué par Christian Nairn. Il faut savoir, c'est un DJ irlandais qui fait 2m10 et qui est très connu en Irlande. C'est une star. C'est un personnage très très aimé des geeks. Et d'ailleurs, il y a une fin d'épisode qui est très très émouvante sur le. Ah bon, je vous en dis pas plus, mais c'est une scène culte de la saga Game of Thrones.
D'accord.
Et puis le personnage geek par excellence, je pense que. Il n'y a pas de contestation possible, c'est ça.
Alors ça va pas parler. Ça va pas parler à Sonia.
Alors voilà.
Non.
Docteur Manu, de Docteur Who.
Ah oui, mais c'est pas des sacrés mecs, moi je trouve, je suis déçue.
Depuis
je m'attendais à avoir des.
C'est vrai que d'un côté, quand c'est les nanas, t'as vu, on joue beaucoup sur le physique. Et quand c'est les mecs, c'est plus sur l'interprétation ou l'histoire. Quoi.
Ouais, on se demande pourquoi.
C'est étonnant, oui. Je comprends pas.
Alors le Docteur Who, c'est un extraterrestre, seigneur du temps, qui voyage à travers les époques, toujours avec des acolytes, femmes, hommes. Il y a eu 846 épisodes depuis 1963. Il y a eu un gros break de 20 ans et puis depuis 89, il y a eu beaucoup de Doctor Who de nouveau. Il y a, en tout, depuis le début, il y a eu 12 interprètes de Doctor Who. Et même dernièrement, c'est une femme qui reprend la série. Voilà, le premier personnage féminin. Et puis le Doctor Who par excellence qui remporte tous les suffrages, eh bien, c'est David Tennant, le sosie officiel de... David.
De David, ouais,
oui,
notre chroniqueur.
De David, notre chroniqueur,
c'est vrai,
ciné
voilà.
Joker.
Ah oui, c'est vrai, carrément.
Voilà pour ma chronique.
Merci Olivier. Alors ce week-end au festival Angers Geek Fest, il y a plusieurs conférences et l'une d'entre elles évoque le phénomène de mort imminente. Alors qu'est-ce que c'est exactement la réponse avec toi Manu?
Alors, mon sujet du jour traite des expériences de mort imminente ou EMI. Alors, bien qu'il paraisse farfelu, je me suis interrogée longuement sur ce sujet. Beaucoup, beaucoup de travail, mais je vais vous faire un condensé.
Oui.
Après tout, n'ayons pas peur des mots, ce n'est rien d'autre que la conscience d'être mort. Alors, presque rien du tout, en fait, mais vous voyez bien que ce postulat ouvre tout un champ des possibles qui, dans nos sociétés devenues moins spirituelles que matérialistes, a malgré tout trouvé une voie scientifique comme un pont entre deux mondes que tout oppose. Alors, science ou croyance, qu'est-ce que l'EMI? Alors, tout d'abord, il s'agit de savoir de quoi on parle. À ce jour, 7 critères caractérisent une EMI. Ces critères ont été identifiés en 1975, date des premières recherches scientifiques par le docteur Moody. Alors, c'est vous dire que c'est quand même assez récent dans l'histoire des hommes. On retrouve dans les 7 critères la décorporation, vous savez, le fait de flotter dans l'air, sortir de son corps, observer ce qui se passe autour, la lueur intense et blanche mais non éblouissante, l'absence d'espace dimensionné, de haut, de bas, de gauche, de droite, la rencontre avec des défunts, voilà, qui nous parlent, qui nous disent des choses, une impression de tout connaître comme une fusion avec le tout, une sensation de bien-être et une indifférence émotionnelle de ce dont on est témoin, c'est-à-dire de sa propre mort, dont on pourrait penser quand même que ça nous fasse un peu souffrir. Eh bien là, pas du tout. Il apparaît donc qu'on peut scientifiquement répertorier les EMI, d'autant qu'elles ont de réelles répercussions, qu'elles soient positives, influençant la spiritualité ou la compréhension d'autrui, ou négatif, générant un syndrome de stress post-traumatique, une dépression ou un divorce, parce que ce ne sont pas que des expériences heureuses, en tout cas quand les gens reviennent. Il apparaît donc qu'une personne sur 10, dans ces recherches-là dont je vous parlais, qu'une personne sur 10 dans le monde aurait vécu une expérience de mort imminente. Quand même, c'est un peu énorme. Mmh. Alors, c'est une étude qui a été menée sur plus de 2000 personnes. Donc, c'est vous dire qu'elle est répertoriée. Voilà. Elles sont rapportées par des personnes ayant été confrontées à un danger mortel ou non. Car oui, Le hémine intervient lors d'un arrêt cardiaque, un traumatisme cérébral ou une chirurgie lourde. Alors ça, on y aurait tous pensé. Mais elle peut aussi se produire, et ça c'est plus étonnant, pendant le sommeil, sous l'emprise de drogue, dans un état de méditation ou pendant une syncope. Voilà. On peut même les partager, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui rapportent une expérience d'EMI partagée entre plusieurs personnes, par exemple qui assistent au défunt d'un de leurs proches. Donc c'est très curieux, mais c'est recensé scientifiquement.
Au décès d'un proche, tu veux dire ?
Ouais. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Au défunt d'un proche.
Ah, au décès d'un proche. Alors contrairement au ressenti le plus fréquent, certaines seraient extrêmement déplaisantes. Alors pas seulement le retour, mais l'expérience elle-même qui serait déplaisante. Alors ce serait le cas de 14% d'entre elles avec présence d'éléments du scénario désagréables, de vide, avec un sentiment de grand isolement. Les personnes évoquent un environnement sombre, un ressenti oppressant. Alors, par ailleurs, elles disent avoir rencontré des êtres diaboliques ou avoir été témoins de scènes de torture. C'est vous dire que le vécu n'est pas sensationnel quand même. Alors on pourrait penser que la culture, le niveau d'éducation, le sexe, les croyances sont des facteurs influençant l'EMI. Or, elles ont été rapportées à travers tous les continents, mais également à travers les différentes périodes de l'histoire humaine. Certains récits évoquant des phénomènes aux caractéristiques similaires remontent jusqu'à l'Antiquité. Platon, dans la République, fait le récit du voyage dans le lieu divin que fit Er, mort sur un champ de bataille, mis sur un bûcher pour y être brûlé, mais revenu à la vie. Er, de Pamphilie, est présenté comme un observateur de ce qu'il advient aux âmes après la vie, ou bien encore avant la vie. Alors vous voyez que c'est une histoire qui dure depuis très très longtemps. Oui. Les enfants sont eux aussi concernés. Trop jeunes pour avoir subi un conditionnement culturel et religieux, ils rapportent des expériences de mort imminente similaires à celles des adultes. Voilà. Et eux aussi voient des défunts. Donc comment on pourrait...
Ça me rappelle le sixième sens, enfin
ben
le
oui,
film.
Voilà. Alors, ils rapportent des expériences d'avoir rencontré des défunts que eux-mêmes n'ont pas connus. Mmh. Donc c'est quand même un peu curieux. Voilà. Alors si l'EMI est décrite, on peut en interroger l'origine. Dans ce domaine, il y a finalement peu de réponses aujourd'hui. Comme toute démarche scientifique, elle a été passée au crible des hypothèses concernant les mécanismes neurophysiologiques et neuropsychologiques. Alors, on compte l'hypoxie, le manque d'oxygène, l'excès de dioxyde de carbone dans le sang, une crise d'épilepsie, vous voyez, un choc électrique qui viendrait perturber le fonctionnement, l'usage de drogue, etc., etc. Tout a été passé au crible, en tout cas, de ce que vous pouvez penser être à l'origine des EMI. Toutefois, à l'heure actuelle, ces hypothèses ne permettent pas de rendre compte de la totalité du phénomène. C'est-à-dire que quand on trouve quelques explications à quelques critères, finalement, on ne trouve pas de réponse à tous les critères qu'on a recensés dans les EMI. Donc voilà, et tant qu'on n'a pas validé tous ces critères, on ne peut pas expliquer pourquoi elles se produisent. Certains émettent une autre hypothèse qui appartient à la physique quantique, bien plus qu'à la médecine. Il faudrait se représenter un électron qui aurait la faculté d'être partout à la fois et qu'on ne saurait pas localiser. Espace non local qui influence nos relations individuelles que Stephen Hawking nomme trou de ver. Alors là, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Ça commence à devenir un peu compliqué. Alors un trou de ver, c'est en astrophysique un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait d'un côté comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Voilà. Ce qui expliquerait l'effet de tunnel. Voilà. Il faudrait se le représenter comme une feuille qu'on replierait sur elle-même. Le bord de la feuille.
Elle est en train
gauche.
D'écrire, hein, pour ceux qui sont à la radio avec ses mains. Voilà. Elle est en train d'essayer.
Pardon, c'est de la radio.
Oui, excusez-moi. Enfin bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, vous n'avez qu'à aller chercher.
Alors le rapport avec le trou de ver et la mort imminente alors.
Ben c'est l'effet tunnel. On pourrait penser que c'est ce que tu disais, t'as pas écouté.
Si.
C'est l'histoire de l'électron qui serait mobile tout le temps, qui ne serait pas localisable. Et j'y viens. L'hypothèse avancée dans le cadre de l'EMI serait donc celle de la conscience extracorporelle. Notre cerveau n'étant qu'un émetteur récepteur de celle-ci. Voilà. Vous voyez, vous comprenez ?
Oui.
Notre corps ne serait qu'un vecteur. Alors on se calme. À ce jour, les trous de ver sont des concepts purement théoriques. L'existence et la formation physique de tels objets dans l'univers n'ont pas été vérifiés. C'est vous dire qu'on n'a pas fini d'en débattre.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce que ça intéresse, il y a eu un documentaire qui a été fait courant 2019, ça s'appelait Thanatos, l'ultime passage, et justement il faisait l'état de plein de témoignages de personnes dans le monde entier qui, enfin entre autres, hein, ils ont sélectionné, mais qui ont vécu, que ce soit de façon positive ou négative, ces états de mort imminente que tu décris.
Merci Manu. Alors si vous aimez les chroniques de Manu, on vous conseille de réécouter celle sur les oreilles évoquée dans l'émission 2, hein, que vous pouvez réécouter en podcast un petit peu partout. On retrouve maintenant celui avec qui nous avons commencé l'émission. Voici Bruno et sa rubrique C'était mieux après.
Allez, des petites news. Le tournage d'Avatar 2 est terminé. Ah. Il sort fin 2022, normalement. Le temps de peindre tout en bleu, hein, ça prend un petit peu de temps. Et Avatar 3, lui, il est déjà tourné à plus de 90% et il sortira l'année d'après.
Et Sigourney Weaver, elle est ressuscitée?
Je ne dis rien.
Peut-être c'était une mort étonnement imminente.
Voilà. Par contre, il y a Matrix 4, qui, lui, est en cours de tournage à Berlin. Et il sera toujours avec Keanu Reeves, qui donc lui va bien ressusciter.
Bon, j'ai pas encore vu le premier, alors bon.
L'avant-première, il y aura Sister Act 3.
Ah ouais,
elle revient.
Elle revient. Lundi prochain, le plus long métro de France arrive sur la ligne 14 à Paris. Ça nous fait une belle jambe, ouais. Il fait 120 mètres de long et peut contenir 1000 personnes. Voilà, bon, c'est pas très Covid-safe. Mais c'est prévu de longue date, donc voilà, c'est lundi prochain que voilà, si vous allez sur la ligne 14, vous aurez un très très long métro. Vous connaissez SpaceX, la société privée qui emmène des hommes dans l'espace?
Oui.
Eh bien, elle ne fait pas que des fusées qui partent à la verticale, mais aussi à l'horizontale.
Oula. C'est dangereux. Mais c'est dangereux.
En fait, la société Elon Musk vient de passer un accord avec l'armée américaine pour un missile de transport capable de livrer 80 tonnes de matériel n'importe où dans le monde à une vitesse de 12 000 km/h.
Ah oui, ce serait enterré. Enfin, oui, j'en ai
non, mais même, un missile qui peut être dans le ciel, quoi, mais ça, qui tourne autour de la Terre et qui peut livrer à 12 000 km/h, c'est pas mal.
Cela ne me rassure en rien.
Bon, allez, histoire de vous déprimer, une nouvelle étude sur le Covid montre qu'il peut rester vivant jusqu'à 28 jours sur des surfaces restées au frais et à l'ombre, donc des billets de banque par exemple, d'où la nécessité de se laver les mains souvent, sauf si vous êtes pauvre évidemment, vu que vous ne touchez pas de billets de banque. La prochaine application Stop Covid, elle arrive le 22 octobre 2020. Voilà, l'appli actuelle a été téléchargée pour moins de 3 millions de fois et aussitôt désinstallé par 1 million de personnes. Alors trop peu l'utilise, hein, pour savoir un impact. J'ai pas tout compris comment ça marche encore.
Moi je l'ai encore sur mon téléphone.
Ah ouais, ça marche bien. C'est
ça, jamais clignoté, donc pense que ça.
Voilà. Bon, mais bon, il va y avoir une campagne de pub prochainement. Attendez-vous à avoir plein de spots partout pour la nouvelle version. Voilà. Et si c'est pas, si on chasse le Covid comme le Pokémon, ça ça peut marcher, hein? Attrapez tous. Disney veut faire de son attraction Space Mountain un film. Voilà, vous imaginez un film avec Space Mountain? Ben en fait, c'est pas nouveau l'idée, puisque la firme a déjà fait une saga avec Pirates des Caraïbes. C'était en fait une attraction du parc Disney datant de 1967.
Oui, mais là, Space Mountain, tu fais quoi avec?
Ben, le problème, c'est que le thème, c'est Star Wars. Faudrait peut-être leur dire qu'il y a déjà un film.
Oui, effectivement.
Je sais pas. Enfin bon, voilà, pour les news du jour.
Merci Bruno, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec de nouvelles chroniques en compagnie de nouveaux invités. On sera à quelques jours d'Halloween, donc il y aura peut-être quelques surprises. Hein. Retrouvez à tout moment l'émission du jour en podcast et toutes les infos sur nos comptes Insta, Twitter et Facebook. Bonne soirée et à bientôt, amis. I'm
Radio G 101.5 FM.